Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 23e de cette 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Henri Martin.
Bonjour.
Maire de Port-la-Nouvelle. Vice-président de l'AGLO, conseiller départemental, on en dira peut-être un petit mot également. Mais nous avons notre sommaire habituel avec, en première partie, la question que tu poses, Michel. À quoi sert le contrôle de l'égalité ? L'égalité, c'est pas l'apostrophe, hein, c'est la légalité, le fait d'être légal. En deuxième partie, tu poses une autre question. La peur comme moyen d'échapper à l'enfer du réchauffement climatique, quid, hein, peut-être. Exact. Et puis, on dira un mot sur une candidature qui vient d'être révélée cette semaine pour une mairie, celle d'Ouveillan, celle de l'ancien journaliste bien connu sur la Narbonnaise, Jean-Paul Chalulot. Mais tout d'abord, à quoi sert le contrôle de l'égalité ? C'est déjà quelque chose que tu avais évoqué la dernière fois à propos du marché de la salle multimodale de Narbonne.
Oui, j'avais évoqué un peu rapidement et je souhaite y revenir, ne serait-ce que pour faire un peu aussi de pédagogie, en fait, hein, dans cette émission, Jean-Claude. Hein,
et d'une part, faire ressortir qu'il y avait eu, tu l'avais souligné, des défauts véritablement.
Exactement.
Des défaillances.
Oui, alors, c'est vrai que cette chronique vient est d'autant plus d'actualité que, comme tout Narbonnais, nous sommes dans l'attente de la décision du tribunal administratif, et donc par la voix de la présidente ou du président de ce tribunal, va suivre ou pas les conclusions du rapporteur public qui sont connues et qui sont très sévères, je le rappelle, hein, puisque le rapporteur public demande au tribunal et à sa présidente de tout simplement d'annuler le marché et donc de sursoir à exécution, c'est-à-dire d'arrêter purement et simplement les travaux.
Et selon que ça sera le cas ou pas, on se posera encore plus que jamais à quoi sert le contrôle de l'égalité a priori, avant.
— Exactement. Donc la question qui est posée à travers cette situation, c'est mais à quoi sert donc le contrôle de l'égalité ? Parce que ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que tous les actes administratifs produits par les collectivités locales, les actes administratifs, toutes les délibérations, aussi, entre autres, arrêtés, délibérations, etc., il y en a à peu près 8 millions par an. 8 millions par an en France.
Ça fait du boulot quand même.
Ça fait quand même beaucoup d'actes administratifs. Donc tous ces actes, toutes ces délibérations sont censées être contrôlées par les services de l'État pour vérifier si oui ou non ces actes, ces délibérations, ces arrêtés sont légaux ou pas.
Oui, et en vertu du principe, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand il y en a 8 millions à contrôler, bonjour l'ambiance.
Exactement. Donc c'est une masse considérable fait d'actes que le sous-préfet et le préfet le sous-préfet de Limoux ont à contrôler. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, compte tenu de l'état des troupes, si je puis dire, du côté de l'État, indépendamment de leur compétences en droit administratif, que j'ignore et dont j'ai pas forcément envie d'en dire deux mots, et de porter un jugement, en tout cas sur cette expertise-là, il est quasiment physiquement impossible, effectivement, à ces services de contrôler tous les actes.
Il faudrait des troupes d'employés.
Alors, d'autant que depuis la décentralisation, ce contrôle-là n'est plus un contrôle a priori, c'est-à-dire c'est un contrôle a posteriori. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'une collectivité locale délibère prend un arrêté, cet arrêté est envoyé au service de l'État, par la voie postale ou par la voie numérique, peu importe. Et puis les services de l'État doivent, dans des délais extrêmement courts et stricts, dire si oui ou non cette délibération, cet acte sont conformes à l'égalité. Alors, on peut comprendre, compte tenu des volumes, d'actes dont je disais précédemment, qui étaient très importants.
Mais dans le cas d'une chose aussi importante qu'un marché,
on peut comprendre que, compte tenu du volume d'actes, il y en a qui sont plus ou moins importants. Je sais rien, une délibération qui accorde une subvention de 8000 euros de l'intercommunalité de Narbonne, du Grand Narbonne, à un hôtel-restaurant, illégal, mais vraiment illégal, oui, d'illégal, quoi. Hein, bon, passe le filtre comme ça sans difficulté, parce que bon, 9 000 euros, ben bon, pour un fonctionnaire de l'État qui regarde arriver cette masse de délibérations, ça n'a strictement aucune importance, ça ne va même pas. C'est illégal, totalement illégal, mais ça ne va pas. Par contre, 23 millions d'euros, c'est pas tous les jours que dans ce département, je dirais même, c'est pas tous les ans, que dans ce département, on voit passer du côté de l'État une délibération de 23 millions d'euros pour un marché conception-réalisation. Voilà. Et c'est là où il y a vraiment une question. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la procédure pour que... Parce que je ne doute pas une seule seconde que la présidente suive son rapporteur sur l'illégalité du marché en question. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'État et qui ait laissé passer ce marché sans qu'il y ait eu la moindre recommandation du préfet? Parce que le préfet peut, quand il reçoit une délibération comme ça, dire envoyer une petite lettre en fait, au maire, dire écoutez, monsieur, cher ami, hein, cette délibération est illégale. Je vous recommande de la mettre au panier et d'en refaire une autre qui soit plus conforme au droit. Alors dans ce genre de situation, entre parenthèses, mon cher Jean-Claude, le maire, lui, peut très bien refuser. Mais non, pas question de votre recommandation.
Seulement, s'il refuse, il sait à quoi il s'engage.
Moi, monsieur le préfet, je n'ai rien à cirer, donc je la maintiens. Oui. Et puis faites ce que vous voulez. Sauf que dans les trois quarts des cas, dans ce cas de figure-là, les préfets ont beaucoup de réticence à déférer ces actes devant les tribunaux administratifs. Sauf dans des cas très particuliers, quand le risque pénal du préfet est en jeu. S'il s'est rendu compte que dans la procédure, il y a un petit travers dans le style, je ne sais rien, moi j'ai graissé la patte à machin, à tout, etc., qui risquerait, alors s'il y avait un recours par un tiers, lui, le préfet, de se retrouver dans les tribunaux et puis d'en prendre plein la casquette.
Un effet boomerang, là, qu'on n'aimerait pas.
Ce qui s'est passé dans certaines affaires dont je ne vais pas faire état ici. Donc, voilà, donc, on se retrouve là. Alors,
donc là, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, ce marché conception-réalisation serait illégal. Alors qu'il y a un an et demi qu'on sait qu'il a été décidé sous cette forme-là.
Oui, il a été décidé. Alors, quand même. C'est pas que je veuille revenir sur ce que j'ai écrit en 2016 sur ce sujet, dans un billet de mon blog, en exposant toute la jurisprudence qui démontrait qu'effectivement ce marché était totalement illégal, conception-réalisation. Bon, il faut pas sortir, il faut quand même un minimum de connaissances en droit administratif,
bien sûr.
Mais quand même, bon, le préfet est entouré d'un directeur, d'un secrétaire général, de gens qui ont quelques compétences. Et j'imagine aussi quand même que le maire Narbonne, avant de prendre une telle décision, téléphoner, consulter le préfet, ses services, pour vérifier quand même que cette affaire était conforme au droit.
Donc on ne comprend toujours pas.
On ne comprend pas non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe devant ce genre de situation où le contrôle d'égalité est de fait de moins en moins assuré? C'est qu'on se trouve dans une situation juridique, et une instabilité juridique, du côté des élus, qui est considérable.
Une grande incertitude, finalement.
C'est pas parce que le préfet, dit que ce n'est pas légal,
que ce n'est pas illégal,
que le risque juridique lui disparaît. Personne n'a déféré.
Donc ça crée une insécurité.
Considérable. Parce qu'imagine Jean-Claude que demain, dans la semaine prochaine, la présidente te dit, mais écoutez, je suis les conclusions de mon rapporteur, j'arrête les travaux. Terminé.
Là, ça serait ubu,
mais qui est responsable de la situation?
Ubu, Kafka et tutti quanti.
Oui, la responsabilité du côté de l'État, du côté du maire, des deux réunis, etc. Du côté de ceux qui avaient intérêt à agir, quand même. L'ordre des architectes avait effectivement intérêt à agir. Pourquoi n'a-t-il pas fait lui aussi? Parce qu'effectivement, représentant tous les architectes, si jamais il avait fait un recours, peut-être que le maire de Narbonne aurait dit tiens, les architectes de Narbonne, moi je ne vais plus les voir.
Donc on comprend que c'est difficile. Voilà. Mais du côté, en tout cas, de l'État, on a du mal à suivre.
Mais à la fin de la fin, quelle est la personne morale ou privée qui peut effectivement contester un acte illégal? Des associations. Mais l'association, il faut qu'on ait les moyens à la fois financiers et les moyens juridiques. Indépendamment, je dirais, de la capacité politique. Parce que quand une association de 1901 qui, une commune, se paye effectivement c'est compliqué.
Que la question reste posée et que nous n'avons pas la réponse. Mais en tout cas, c'était une bonne question et une explication, je pense, qui éclairera dans l'incertitude nos auditeurs. Et on marque une première pause.